Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Alors je redis Matthieu chapitre 15 verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et je relis simplement le verset 9. C'est en vain qu'il m'honore, et particulièrement en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. On retient le mot commandement d'homme. Autre lecture, autre situation dans le livre des psaumes. On va lire le psaume 50. C'est un psaume d'Asaph. Dieu, Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient à notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple et je parlerai. Israël, je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, « Quoi donc? Tu énumères mes lois, et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis, et qui jette mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre, et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire, sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur ses voies, je ferai voir le salut de Dieu. » Que Dieu nous bénisse, c'est un magnifique psaume. Hein, vous le connaissez, on le chante parfois dans nos cantiques. De toutes les époques, soit par plaisir ou par crainte, ou tout simplement par des instincts grégaires territoriaux, je m'explique, hein, vous allez comprendre ce que je veux dire. De toutes les époques, l'homme a été érigé des frontières. Je parlais de frontières pour dire, eh bien voilà, ma maison s'arrête ici, ou mon pays s'arrête ici. Ou tout simplement par instinct de possession, ou par crainte que des ennemis viennent envahir. Donc l'homme a inventé les frontières. Frontières géographiques, politiques, sociales. Dans certains continents, ce sont des frontières tribales. Psychologiques, elles sont là quand même, elles ne se voient pas, mais elles sont là. Et puis les frontières religieuses. Voilà. Moi, je suis deux. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Pierre, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de mon pasteur. Alors, on va voir ça un petit peu, ce que ça veut dire. Je suis de tel ou tel ou tel. Je voudrais vous dire tout de suite qu'on est à Jésus-Christ. La frontière, qu'est-ce que c'est? C'est une ligne fatidique qui sert de repliement sur soi. Quand je suis derrière ma frontière, je suis tranquille, figurez-vous. Ou à l'inverse, lorsque elle est franchie, eh bien, c'est l'invasion du voisin. C'est ce que nous entendons dans les actualités avec ce qui se passe en Russie en ce moment. Comprenez? D'un côté, c'est le protectionnisme, et de l'autre côté, c'est l'expansionnisme. Et quand ce n'est pas tout simplement le bordement, le débordement du tout est permis. C'est-à-dire, on fait n'importe quoi. Voilà, tout simplement. Afin de mieux se garantir, on fait des frontières imperméables. On parle un petit peu en politique de frontières étanches, mais sont-elles réellement étanches? L'étanchéité. Je développe un petit peu la pensée. C'est le cœur mauvais de l'homme, dit la Bible, qui élève des frontières. Je dis bien, c'est le cœur mauvais qui élève des frontières et pose partout des limitations. Ce qui fait que l'homme s'est retrouvé confronté avec des situations impossibles, avec des désirs de vouloir rentrer alors qu'il ne le peut pas, et de vouloir sortir par-delà d'autres frontières alors que, finalement, eh bien, il est retenu en dehors. Il s'est emprisonné lui-même. Néanmoins, il existe de bonnes frontières. Il y en a des bonnes. Il faut être positif. La loi de Dieu est une bonne frontière. Toutes les formes de protection publique, même si on n'est pas d'accord avec les limitations de vitesse sur les routes, c'est quand même de bonnes dispositions. Les codes, code civil et puis tout le reste, ce sont des frontières en quelque sorte. Et imaginez-vous un monde où il n'y a plus de frontières. C'est du n'importe quoi. On s'en va et on fait comme bon nous semble, un petit peu comme dans cette histoire du livre des juges où il nous est dit qu'il n'y avait plus de roi en Israël, on pourrait dire qu'il n'y avait plus de loi. Alors à ce moment-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Savons-nous, que Dieu, au verset premier, parle et convoque la terre? Vous en êtes convaincus. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il dit. Et que dit Dieu? Il annonce que le monde serait tout autre si les hommes reconnaissaient l'ordre qu'il a imparti à chacun et à tous dans l'unité et le respect mutuel. Quel monde idéal, figurez-vous. Ça serait autre chose. Et vous savez, c'est quand même un tour de force. Que le monde, même sans espérance en Dieu, arrive à faire fonctionner notre planète, quand même. Moi, je m'étonne quand on voit un petit peu tout ce qui se passe. Quand on voit le potentiel de poudre sur lequel on est assis, je me dis, mais quelquefois, c'est étonnant, ça n'explose pas plus vite. Et pourtant, enfin, il y a quand même quelqu'un qui veille au-dessus, hein, quoi qu'il en soit. Alors, je pense que Dieu a imparti à chaque homme, à chaque nation, chaque peuple, quels que soient les hommes, leurs conditions, leur élévation en pouvoir, dans leurs décisions, mais dans le but de l'unité et du respect des uns et des autres. Dans le livre des Actes des Apôtres, c'est Paul qui était un homme très perspicace et il nous dit ceci au chapitre 17, simplement au verset 26, je relis brièvement le texte. Il nous est dit que Dieu a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En lui, nous avons le mouvement, la vie, le mouvement et l'être. Mais un peu plus précédemment, il est dit, « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul rang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Voilà, Dieu a mis les choses en place. Les choses ont été placées dans un but bien particulier. Nous apprenons dans le texte que je viens de citer, c'est que tous les hommes sont frères. Ils sont frères. Même origine, par volonté créationnelle, la terre est leur partage, c'est vrai. Dieu est le maître de leur vie et de leur histoire. C'est pourquoi il nous est dit, il a fixé la durée des temps. Qu'ils ne sont que les gérants de cette planète. Nous ne sommes pas des propriétaires, des gérants. des gérants donc d'une planète où Dieu lui-même a droit de propriété par création. C'est pour ça que Paul ajoutera « borne de leur demeure ». Ce que nous avons et ce que nous possédons, il faudra bien que nous nous disions un jour ou l'autre, on va le passer à ceux qui viennent derrière nous. Hein. Quoi qu'il en soit, de toute manière. Alors moi je dis, voilà les vraies frontières que les hommes ont certainement depuis bien longtemps oubliées, les vraies frontières données à une humanité qui les méconnaît et qui entraîne aujourd'hui toutes sortes de tragédies, des conséquences dont, hélas, nous sommes souvent les victimes, que ce soit la guerre, que ce soit le racisme, que ce soit la haine, et puis tout ce qui va avec. Mais Dieu ne se contente pas de dire qu'il convoque la terre, et il dit encore au verset 7, « Écoute mon peuple, je parlerai, je suis Dieu, ton Dieu. » Un peu plus loin, au verset 12, il ajoute, « Le monde m'appartient et tout ce qu'il renferme. Or, le Créateur de toutes choses a été relégué par les hommes dans les cieux. » On dit Dieu est à sa place dans le ciel. Qu'est-ce qu'il viendrait faire sur la terre? Et désormais, la terre, par voie de conséquence, est entre les mains des hommes, de sa créature. Et chacun, enfin parmi nous, notre humanité, chacun se frotte les mains en disant, finalement, on n'a pas besoin de Dieu. Alors que Jésus nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Excusez-moi si je pouvais avoir un petit verre d'eau. En possesseurs et hontés, les hommes ont morcelé, divisé, séparé. Et aujourd'hui, il y a un mot à la mode, c'est le mot ghetto. Et ce n'est pas seulement à Johannesburg, dont nous avons si souvent entendu parler, mais c'est aussi dans nos pays occidentaux. L'homme s'est évertué à fabriquer des barrières. Il a fait des clôtures. Parfois même, il a mis des barbelés. Et vous savez ce que ça représente, si, d'une manière sinistre. En proclamant à chacun qui voulait l'entendre, « Eh bien, je suis chez moi. Je suis, eh bien là, dans ma propriété. » Défense d'entrée, vous le voyez souvent, chien méchant, etc., etc. Enfin bon, vous avez un peu tout le tableau. Propriété privée. Et chacun de dire tout simplement, eh bien, je suis maître dans mes portes, je suis maître en ma demeure. La propriété privée n'est pas mal en soi, hein. Mais c'est surtout l'état d'esprit qui est derrière. Parce que ça ne va pas seulement autour de notre maison, notre jardin, notre voiture et ceci et cela. Il y a bien d'autres choses beaucoup plus importantes. Et vous allez voir à quoi je veux en venir. Je ne livre pas tout de suite le secret de mon message. Enfin, du message que le Seigneur m'a donné. Mais c'est un état d'esprit. Et s'il fonctionne dans un sens, il peut fonctionner aussi spirituellement, dans un sens négatif. Religieusement, dans un sens négatif. Alors, c'est assez paradoxal que l'homme mette des interdictions de rentrée, propriété prouvée. Et le paradoxe dans cette affaire, c'est que cet homme-là qui parle comme ça, qui vit comme ça, qui entend les choses de cette manière, n'est même pas maître de son souffle. Il ne peut pas dire de son souffle, c'est ma propriété privée. Il ne s'affiche pas à une étiquette en disant, voilà, défense de... Et c'est ça le paradoxe de l'humanité. Toutefois, l'espèce humaine a besoin quelque part de Dieu. Ne serait-ce que pour se rassurer de ne pas être un accident dans un univers d'accidents, vous connaissez la formule. Là encore, avec sa manie de mettre des frontières partout, l'homme a arbitrairement établi un code de bonne conduite ou d'approche à l'intention de Dieu. Dieu a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés » et les hommes ont dit « Non, on va modifier un petit peu la donne ». On va faire d'une façon que Dieu appelle, c'est vrai, à appeler tous les hommes, mais nous, on va filtrer l'approche de Dieu. On va mettre des barrières, on va mettre des portillons, on va mettre toutes sortes de choses de telle manière que les hommes ne pourront plus s'approcher comme Dieu le demande. Et ils ont mis, finalement, des murs, ils ont mis des barrières, parfois même des barbelés. Vous allez voir, vous allez comprendre. Un code de bonne conduite pour à l'intention de Dieu. Il a posé même des limites à Dieu et à quiconque voudrait s'approcher, eh bien tout simplement, en toute simplicité pour le prier, pour l'adorer. Et c'est le visage de notre monde aujourd'hui, notre monde religieux. Le fait religieux de notre monde, c'est quoi? C'est des dominations, ce sont des groupements, ce sont des mouvements, ce sont des religions d'histoire, ce sont toutes sortes de choses comme cela, un véritable labyrinthe. Et on comprend quelquefois la réflexion de certains amis qui, au contact de l'Évangile, me disent « Mais moi, je ne comprends pas qu'il y a un seul Dieu, il y a... » Et en plus, les hommes se font la guerre autour de la question de Dieu. C'est curieux tout cela. Mais croyez bien, n'allons pas mettre la faute sur le compte de Dieu. Certainement pas. Alors, l'homme s'est pris à rêver et il a réalisé son rêve. Il a fait ce qu'on appelle des religions. Vous connaissez le sens, l'étymologie latine de religion, c'est religio, et qui veut dire relier. Donc, entité, c'est formidable, c'est un mot qui est magnifique, le mot religion. Mais dans la pratique, c'est tout le contraire qui se passe. Alors, l'homme a inventé les religions et est né alors le distinguo entre le sacré et le profane. Le sacré et le profane. L'homme a décrété ce qui était sacré à ses yeux et ce qui était profane. Et quelquefois, vous savez, quand on regarde bien, on se demande si l'homme n'a pas perdu la tête. Qui peut dire que les choses sont sacrées, sinon Dieu? Est-ce que ce sont les théologiens? Est-ce que ce sont les penseurs des siècles? Est-ce que ce sont les philosophes à caractère peut-être religieux qui ont décrété que ça serait comme ça et ça ne serait pas autrement? Et les jugements qui vont dans l'autre sens, quand on a dit c'est profane, qui est-ce qui est profane? Alors, par la religion, les hommes ont voulu expliquer Dieu et si possible monter au ciel. Ils se sont dit, voilà, ça passera par nous, ça passera par nos frontières. Et vous savez que dans toutes les frontières, il y a des passages que l'on appelle des douanes. Alors jusqu'ici, là, maintenant, on n'a plus de douanes. Enfin, quoi qu'il faut se méfier parce que c'est peut-être pas visible, mais elles sont là quand même. Et dans le temps, eh bien, il fallait passer, montrer un passeport, il fallait montrer une carte, il fallait montrer tout ce qui était nécessaire pour justifier de notre nationalité et de notre, finalement, crédibilité pour pouvoir rentrer dans le pays qui nous intéressait. Alors, expliquer Dieu et monter au ciel. Et moi, j'aime bien cette citation où il est dit ceci. « Ce n'est pas dans le ciel qu'on trouve Dieu, mais c'est en Dieu qu'on trouve le ciel. » Et ça, ça change tout dans notre réflexion. « Par l'Évangile, Dieu est descendu vers les hommes et il s'est expliqué avec eux. » L'apôtre Paul l'écrira d'une manière admirable. Il a dit « Il a fait la paix par Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Plus de barrières. Plus de frontières, pas de barbelés. Il a fait la paix, réconciliant en Jésus-Christ le monde avec lui-même. Savez-vous qu'à la croix a été signé le plus grand de tous les traités, pour toujours, c'est l'abolition des frontières. À chaque traité de paix après une guerre, on fait de nouvelles frontières, on redessine les frontières. Quelquefois, elles sont très très mal redessinées parce qu'on se prépare 20 ans ou 30 ans après à avoir une nouvelle guerre. Mais toujours est-il qu'à la croix, eh bien, c'était la suppression des frontières entre le ciel et la terre. C'est ce que Paul nous dit. Donc, plus de sacré et plus de profane. Ah oui. En tous les cas, selon la pensée des hommes, selon ce que les hommes ont décrété. Mais, je ne perds ne pas vous choquer, mais l'homme est réfractaire, il est entêté, non? Quand même. Il a une tête, et quelquefois, ce qu'il a dans la tête, eh bien, il veut aller jusqu'au bout. Alors, comme il est entêté, il veut faire ce que Dieu ne lui demande pas, et ne fait pas ce que Dieu lui demande. C'est toute l'histoire de l'Évangile, ça. Toute l'histoire de la confrontation avec Jésus et ses détracteurs. Ils voulaient faire des choses que Dieu leur demandait pas, et quand Dieu leur dit « Mais faites les choses, elles sont pour votre bonheur, votre épanouissement et votre salut », et là, ils montraient un front hostile en disant « Nous ne le ferons pas ». Et c'est le problème de l'homme. Et ce qui fera dire à Jésus, dans le sermon sur la montagne, « Mais alors pourquoi ?» Et il s'adresse à des croyants et à des gens qui prient. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ? Parce que vous imaginez qu'en multipliant des vaines paroles, vous imaginez qu'en faisant des actes de dévotion qui sont les vôtres, qui sont quelquefois eh bien, en dehors même d'une approche simple, sincère, profonde de Dieu, eh bien vous faites exactement le contraire. Alors surtout, arrêtez, ne m'appelez plus Seigneur, Seigneur. Parce que ça ne sert à rien. Vous ne parlez qu'au plafond, vous ne parlez qu'à votre environnement, mais ça ne va pas plus loin. L'homme a dit, chacun a ses affaires. Bâtissons-nous une tour. Après, ils se sont dit, bâtissons-nous des temples. Mais le temple, normalement, il est fait pour Dieu. Établissons-nous des jours solennels. Et si vous regardez même notre calendrier républicain, vous verrez qu'il est parsemé de plein de fêtes religieuses. Créons des rites, parce que ça fait bien d'avoir des rites. Alors moi, je ne veux pas critiquer les églises ou les religions historiques que nous connaissons dans notre pays. Parce que méfions-nous de balayer d'abord à notre propre porte dans notre milieu évangélique. Oui, oui. Attention. Hein. Créons-nous des rites, des cérémonies qui fassent de l'effet. Il faut absolument une prêtrise. Quitte à ce qu'il y ait une hiérarchie entre, finalement, des intermédiaires, etc., etc. Ajoutons-y beaucoup de sérieux, parce que, excusez-moi, la religion, ça rigole pas, hein. Mettez-y beaucoup de rigueur, un peu plus d'indulgence avec nous-mêmes et beaucoup de rigueur pour les autres. Et tout le monde y trouvera son compte. Et malheur à quiconque ne fait pas comme nous. Nous, nous, nous. Ça n'a rien à voir avec l'assistance maternelle. Non, nous. Parce que je suis moi et moi je pense que c'est comme ça et les autres sont dans l'erreur et moi je suis dans la vérité. Parce que ça ne peut pas être autrement, j'ai la science infuse. Mais je ne parle pas pour moi. Malheur à quiconque ne fait pas comme nous. Que personne ne s'avise à toucher à ce qui est sacré. Parce qu'on appelle ça sacrilège. On appelle ça sacrilège. Vous savez, Jésus viendrait à notre époque. Il surprendrait plus d'un chrétien. Si Paul prêchait encore l'évangile de notre temps, je peux vous dire qu'il y aurait peut-être des choses qui serait certainement à reprendre en considération. Alors, je vais expliquer le sens du sacré, autant que c'est possible. Définition toute simple. Le sacré, écoutez bien, c'est l'être, c'est la chose, c'est l'idée à quoi l'homme suspend toute sa conduite, sa vie, ses pensées, son cœur, ses sentiments, et qu'il n'accepte pas de remettre en cause, qu'il n'accepte pas de voir bafoué, ce qu'il ne renierait ou ne trahirait à aucun prix. Pour lui, c'est sacré. Alors, il y a un sacré religieux et puis il y a un sacré des choses indifférentes du monde. Mais moi, je parle du sacré religieux ce matin. Ouais. Je dis bien, c'est un être. C'est la chose et c'est l'idée. Et quand on part dans cette pensée-là, hein, mes frères et sœurs, il y a une petite porte qui s'en trouve quelque part, où on ne la voit pas au premier abord, mais ça peut devenir une idolâtrie. Idolâtrie. Vous savez, un exemple. Si je suis chrétien, c'est pour le Seigneur. Je ne suis pas chrétien parce que Dieu m'a donné un service. Parce qu'à ce moment-là, je vais idolâtrer le service et je vais en oublier le Seigneur. Tout ce que vous faites, mes frères et sœurs dans l'Église, faites-le pour le Seigneur de bon cœur, faites-le pour sa gloire, et oubliez-vous vous-même. Alors les titres, les fonctions et tout ce que vous voudrez, eh bien, il faut que ça soit derrière nous. Il ne faut pas que ça soit devant nous, en les admirant, en disant, moi, je suis ceci, je suis cela. Et rions un peu de toute la manière dont les choses sont faites pour glorifier l'homme. Parce que vous savez, ça va pas loin. Dans Luc, c'est Jésus qui dit cela aux pharisiens. Et au chapitre 11 et au verset 42, que je retrouve la citation, il est dit ceci. « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de l'amande, de la rue, de toutes les herbes, et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. À un moment donné, dans l'évangile de Marc, Jésus dira à ces mêmes personnages, il dira « Mais vous avez changé le commandement de Dieu au profit de commandements d'hommes. » Et ils avaient fait du commandement de Dieu du profane et ils avaient fait de leur commandement à eux du sacré. Quelle aberration! Quelle aberration! Vous savez, s'il n'y a plus l'esprit, on ne sera jamais heureux. L'esprit de vérité, l'esprit de l'amour, l'esprit de la grâce, on ne sera jamais heureux. C'est pour ça qu'il y a tant de chrétiens dans nos églises qui sont malheureux. Moi je le dis, c'est dommage, parce que vous avez possibilité d'être heureux si vous voulez. D'être libéré, d'avoir un coup de souffle, un épanouissement, et de pouvoir apporter un témoignage qui soit probant à l'extérieur, parce que les gens nous voient vivre. Dieu de ce côté répond dans Ésaïe, au chapitre 1er et au verset 11 à 15, il dit ceci. « Qu'ai-je à faire à la multitude de vos sacrifices ? » dit l'Éternel. C'est pourtant Dieu qui avait institué les sacrifices. Hein. Mais quand ils sont forfaits dans l'esprit, ça ne sert plus à rien. C'est que de la routine et de l'habitude. « Qu'ai-je à faire à la multitude de vos sacrifices ? » dit l'Éternel. « Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, vous, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer à la solennité. Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. S'il y a de la méchanceté dans le cœur, ça ne sert à rien tout ça. On est d'accord? Je peux continuer? On apprend ainsi que ce qui est sacré aux yeux de Dieu, même si c'est Dieu qui l'a institué, mais parce que ça a été souillé par le cœur de l'homme, alors on apprend que ce qui est sacré aux yeux de Dieu, ce n'est pas le geste, ce n'est pas le déploiement fastueux ou majestueux, religieux soit-il, fait en son honneur, mais la participation du cœur, la sincérité, la vérité, l'amour de la justice et l'amour du bien. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est vrai ça. Les apparences des hommes n'ont jamais trompé Dieu. On peut tromper nos semblables, mais pas Dieu. Pas possible. Et à combien il pouvait dire ces paroles encore véritables d'aujourd'hui que nous avons lues tout à l'heure, au verset 16, quand il dit ceci, « Quoi donc, tu énumères mes lois ? Tu as fait alliance à la bouche, tu as mon alliance à la bouche, c'est-à-dire ma parole. Toi qui es les avis, qui jette mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Tu cours après les adultères, tu livres ta bouche au mal, ta langue est un tissu de tromperie, ça c'est le mensonge. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère, hein, qui est c'est ton frère aussi. Hein. Voilà ce que tu as fait, je me suis tu, tu t'étais imaginé que moi j'étais d'accord avec tout ça. La vie chrétienne c'est avant tout quelque chose qui émane de notre cœur, et pas dans les apparences, pas dans le déguisement, pas dans le tape à l'œil. D'ailleurs j'ai remarqué que ceux qui vivent comme cela, ceux qui ont fait profession de foi et qui vivent encore avec le masque, ils ne restent pas très longtemps dans le peuple de Dieu. Mais ils peuvent faire beaucoup de mal en attendant, en tous les cas. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, dit Dieu à l'homme. Vouloir ramener Dieu à l'image que nous nous donnons, lui, que nous nous donnons à nous-mêmes de ce qu'il est, mais c'est une folie. Derrière le manteau du sacré, que de crimes n'ont-ils pas été commis ? Jésus dira et préviendra ses disciples en disant « Mais ils vous traîneront dans les synagogues, devant les sacrificateurs et ceci. Et quiconque vous mettra à mort croira rendre un culte à Dieu. » toute l'histoire de notre christianisme, de notre Occident, barbare, les champs d'honneur ont été arrosés avec le sang des hommes. Au nom de Dieu. Et c'est pas fini, mes frères et sœurs. Je voudrais pas vous mettre la mort dans l'âme si vous êtes en vacances. Profitez-en, hein. Mais une chose qui est certaine, c'est que quand on entend et ce que l'on voit et ce qui nous est annoncé dans la Bible, c'est peut-être pas fini. Et au nom de Dieu, hein. Attention. Mais remarquez, ça commençait avec Adam et Ève. Pas, ça commençait, excusez-moi, avec Caïn et Abel. Mais c'était une histoire de religion aussi. C'est une affaire de culte et d'offrande. Et ça continue encore. Au nom du sacré, que de crimes, de mensonges. Et on a dit que c'était des pieux mensonges. Alors moi, je voudrais dire qu'un mensonge, c'est un mensonge. Il n'y a pas de pieux mensonge, ça n'existe pas. De fraude, d'horreur. En toute impunité, et nous faire croire que Dieu s'y associe. Eh bien, ça, c'est faux. C'est faux. Pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands avaient un ceinturon et il y avait marqué dessus « Gott mit uns ». Dieu est avec nous. Les Français disaient « Ben, nous, c'est la même chose ». Et ils ont fait des petits trous qu'on appelle des tranchées. Ils se sont battus comme des chiffonniers là pendant 4 ans. « Je vais te reprendre et mettre sous tes yeux toutes ces choses. Prenez donc garde, vous qui oubliez Dieu. » Dans cette folle obsession du sacré, on a été jusqu'à enfermer Dieu dans un sanctuaire très confortable, fait d'or et d'argent, rabaissant le Créateur infini dans des proportions ou des dimensions mesquines et ridicules, un temple pour Dieu. Et venant d'un homme, et venant d'hommes soi-disant intelligents, c'est ce qui nous est dit que finalement tout ça n'a pas été fait avec la science d'architecture des hommes. Hein. Dieu remplit le ciel et la terre. Comment le mettre dans une petite boîte ? Fut-il appelé sanctuaire ou temple ? Mettre Dieu en prison dans un temple. Et en faisant cela, eh bien, on a, croit-on, isolé, ou on l'a isolé des réalités quotidiennes humaines. Et à ce moment-là, on a dit que Dieu était devenu inaccessible, intouchable, enveloppé d'un silence de mort qui inspire la peur. Et on a dit, c'est sacré. Et on a dit, c'est sacré. On l'a relégué dans un endroit. Alors maintenant, bien sûr, la seule image que l'on peut avoir de Dieu, ou le seul sentiment qu'on peut avoir, c'est qu'on a fait peur aux gens. Il y a des lieux saints, il y a des lieux qui ne sont pas avant. D'accord ? Non, non. Le ciel et la terre, le Seigneur le remplit. Et lui, il est saint. Alors l'approche vers Dieu dans ces conditions est devenue impossible, voire interdite, et c'est tout le contraire de ce que Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, laissez venir à moi les petits-enfants. » Et puis il y a bien d'autres citations comme ça. Alors, nous voyons que c'est devenu presque interdit avec toutes les barrières qui embarrent la route. Et il y a un autre aspect que j'aimerais mettre en évidence. C'est ce que Paul nous dit quand il nous parle des barrières. Dans Colossiens chapitre 2, écoutez. Ce ne sont pas seulement des barrières, mais ce sont des barbelés auxquels on se déchire. Écoutez bien, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Moi j'ajoute, ne pense pas. Et surtout ne respire pas. Ça ne va pas durer longtemps si tu ne respires pas. Ce sont les exigences tyranniques d'une loi mal comprise. La loi de Dieu, elle est sainte, elle est juste, elle est bonne pour l'homme. Mais les hommes l'ont détournée pour asservir les autres hommes. Même la loi de Dieu, dans sa conception. Parce qu'il n'y a plus l'esprit. Parce qu'il n'y a plus l'esprit de la loi, le sens de la loi. On y est resté sur la lettre. Et qu'est-ce que dit Paul ? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et mes frères et sœurs, il faut avancer maintenant dans une libération, dans une liberté qui nous donne de comprendre le sens de la liberté, de l'affranchissement, du développement dans la pensée du Saint-Esprit par rapport au regard que nous avons de la parole de Dieu. J'ai eu l'occasion hier de le dire, alors que je rendais témoignage devant des dizaines de personnes. L'occasion m'a été donnée et j'ai voulu dire qu'être chrétien, confesser le Seigneur, notre engagement de foi, c'était la vie et c'était la liberté. Et beaucoup de gens ont la pensée contraire. C'est finalement la restriction et ne plus vivre, ne plus respirer. Oui, je veux bien parler d'exigence tyrannique de la loi. Alors ça s'appelle d'un nom, c'est le moralisme. C'est le légalisme, c'est le puritanisme des pharisiens. Et il n'est pas mort. C'est la loi du sacré, des rites imposés, des ordonnances c'est-à-dire un véritable esclavage. Et quand Jésus nous dit que c'est pour la liberté que nous avons été affranchis, ne retournez pas sous le joug de la servitude. Mais bien sûr, et c'est curieux, mais on voit malheureusement trop de gens qui retournent dans le joug de la servitude. Seigneur, tu as donné une parole, elle est bonne, elle est rafraîchissante, c'est le printemps de nos vies en permanence. Et moi, je vais me restreindre, je me recroqueville. Non, je veux vivre, parce que je vais donner envie aux autres de vivre. Et d'être chrétien, eh bien, c'est une belle aventure, une aventure formidable. Et non pas avec, là, quelque chose qui serait passé, quelque chose qui serait gris, qui serait terne. Au contraire, l'évangile, c'est des couleurs, et c'est une explosion de vie. Enfin, Jésus est venu et a dit, « Je suis vivant ». Donc, si nous suivons un Dieu vivant, eh bien, nous devons être vivants avec lui. Parce que l'esprit qu'il nous a donné, c'est un esprit de vie, pas un esprit de mort, de recroquevillement terne, éteint. Et on sait maintenant que la vie, la vraie, n'est pas liée à un carcan infernal de règles, d'exigences, de devoirs, mais d'amour. Il y a une grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Merci Seigneur pour l'Ancien Testament. C'était le bourgeon. Mais maintenant, le Nouveau Testament, c'est la fleur épanouie. D'amour. Et quand on aime, eh bien, quand on aime, il y a des choses qu'on ne fera pas. Parce qu'on aime suffisamment pour ne pas les faire. Et on n'a pas besoin de loi. Parce qu'on aime. La prédication évangélique de Jésus a abattu aux grandes âmes de tous les rigorismes du monde entier la frontière, ou les frontières, les barrières, les différences entre le sacré et le profane, puisqu'il a mis tout le monde sur le même pied d'égalité. Il n'y a plus de grec, il n'y a plus de juif, il n'y a plus d'homme, il n'y a plus de femme, il n'y a plus d'esclave, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus ceci. Il n'y a plus que des hommes en Jésus-Christ, affranchis, parce qu'on a tous le même cœur. Peut-être pas la même couleur de peau, mais tous le même cœur, peut-être pas tous la même langue, mais on a le même cœur. Et vous savez comment il a fait pour nous mettre tous à la même, au même niveau ? Eh bien, c'est une déclaration qu'il a fait, le Seigneur. Il n'y a pas un juste, pas un saint que l'autre, pas plus saint que l'autre. Tous sont pécheurs. Alors, si vous partez sur ce principe, il n'y a pas à se glorifier. Hein. Je ne pense pas à l'autre parce qu'il est comme ça et je le montre du doigt avec un doigt accusateur. Le doigt accusateur, à ce moment-là, il se retourne contre moi et je dis « Je suis comme les autres. Je n'ai pas de supériorité. Qu'est-ce que je peux me faire prévaloir ? Qu'est-ce que j'ai ?» que je n'ai reçu de Dieu encore. Et qu'est-ce que Dieu m'a donné ? Sa grâce. Tout simplement. Toutes les barrières artificielles ou conventionnelles s'écroulent. Il ne s'agit plus de chercher Dieu dans, finalement, un temple, dans une castre, dans un mouvement, dans une religion. Si elle est meilleure qu'une autre, peu importe. Il s'agit plutôt de chercher d'obéir à sa volonté exprimée par sa parole. Mais une parole bien comprise. Pas une parole éteinte, pas une parole empoussiérée, pas une parole qui finalement nous calcifie. Vous savez ce que c'est que le calcaire dans les machines à laver, hein ? Allez, calgon, voilà. Non, mais il y a autre chose, hein. Ah oui. Alors, quelque chose qui nous enserre comme et qui fait que les jeunes ne respirent pas. Comment le monde va-t-il être attiré vers Jésus s'il voit des gens tristes, s'il voit des gens qui sont là complètement recroquevillés sur eux-mêmes ? Vous savez, je suis chrétien, je suis heureux. Non, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Vivons notre vie. Nous avons des engagements conjugaux, des engagements sociaux, des engagements familiaux. Il faut vivre pleinement notre vie spirituelle, là où Dieu nous a placés. Et que les gens aient envie de voir, finalement, que vous êtes chrétien. Et ils verront Jésus en vous. Même si vous n'avez pas de Bible sous la poche, dans la poche ou sous la main. Alors il s'agit d'obéir et de chercher... finalement, à accomplir sa volonté qui est exprimée par sa parole. Le maître mot, c'est une rencontre avec Dieu, personnelle et non rituelle. Jésus désigne le nouveau temple où Dieu veut habiter, c'est le cœur de l'homme. Un cœur qui a été pardonné, un cœur qui a été purifié. Et le meilleur exemple qui me vient à l'esprit, c'est la Samaritaine. Elle n'était pas très clean, hein, la Samaritaine. Et pourtant, c'est à elle que Jésus a déposé, finalement, la grâce de Dieu dans un cœur. Mais elle a été purifiée, elle a été nettoyée. Et à cette question qu'elle posera à Jésus, mais où faut-il adorer ? Il n'y a que des frontières dans notre pays. Elles sont encore aujourd'hui, hein, en Palestine. Hein. Est-ce que nous devons adorer à Jérusalem, comme vous le dites, les Juifs, ou est-ce que nous devons adorer sur le mont Garizim, qui est le temple des Samaritains ? Jésus lui dira, il lui dira, tu sais, écoute, les vrais adorateurs, ce sont ceux Dieu qui adore en esprit et en vérité. Gardons la dimension et la perception de la vie de l'esprit, mes frères et sœurs. Autrement, on va tomber dans les carcans d'une religion. Désormais, pour le croyant de l'Évangile, il n'y a plus deux parts dans la vie. Une part que l'on ferait à Dieu et que l'on appellerait religion, et une part pour soi. Non. Il y a simplement, à chaque instant, journellement, là où nous nous trouvons, une relation vécue avec Dieu qui se fait par la foi, en toute chose, en toute liberté et dans l'épanouissement. Éphésiens nous dit, il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, donc sacré profane maintenant, et qui a renversé le mur de séparation, en qui nous avons par la foi en Jésus-Christ la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Merci Seigneur. Merci de ce que je peux m'approcher de toi avec confiance. Quelquefois je ne suis pas toujours en bon état, hein. Mais je peux quand même m'approcher avec confiance parce que je sais que quelqu'un a réuni les deux. Il a abattu les frontières, il a coupé les barbelés. La conclusion, c'est le verset 5 de notre texte que nous avons lu. « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » C'est beau, hein ? On se croirait déjà dans l'Évangile. Écoutez, « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Jésus, à la croix, mort pour nos fautes, est le point ultime de ralliement de l'humanité perdue. C'est Jésus qui sauve, hein, je dois le rappeler. Jésus, pas un autre. Parce qu'il a dit, tout est accompli, on n'a rien à ajouter. Pourquoi les hommes ont-ils rajouté du profane et du sacré, de ceci et de cela pour... Non, on en revient au début de notre message, hein, finalement. Tout est accompli. L'homme repentant, réconcilié pour toujours avec Dieu, a fait la paix, finalement. Dieu a fait la paix avec lui, il a fait la paix avec Dieu. Depuis la chute, le monde a été tenté vainement de faire la paix autour des monuments aux morts. Vous avez remarqué combien il y a de cérémonies dans l'année autour des monuments aux morts ? Ouais, il y en a. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, faire la paix autour des monuments aux morts ? C'est-à-dire autour du sacrifice de soldats et d'innocentes victimes que l'on a sacrifiées inutilement sur l'autel sacré de la vie. Ce sont des autels, hein, les monuments aux morts. Hein. Autels sacrés. On ne profane pas, et il faut le respecter, bien sûr. Mais je veux dire qu'on a essayé de faire la paix sur des bases de mort, sur des bases de guerre. On peut toujours attendre longtemps. Hein. Parce qu'on va en avoir d'autres, et des monuments aux morts qui vont s'élever. Hein. Hier, c'était le, je ne sais plus combien, l'anniversaire de la bombe de Nagasaki. Ils vont s'en souvenir, les Japonais. Hein. Très très longtemps, mais il y en aura peut-être d'autres. Hélas, nous ne pouvons que le déplorer. Et on veut faire la paix sur ces bases-là. Non, la paix, elle se fait sur le sacrifice de Jésus parce qu'il est vivant et ressuscité. Amen. Ces commémorations ont été de tout temps un système d'unification des peuples. Politiques, religieuses, visant à abattre une fois pour toutes les frontières, mais aussi la haine, la folie, le péché, et on s'est aperçu que finalement on a récolté le contraire. Pourquoi les gens ne veulent-ils pas écouter Jésus-Christ ? Pourquoi ne veulent-ils pas écouter l'Évangile ? La réponse, elle est là. Parce que la solution n'est pas sur la terre, elle est dans le ciel. Elle a été apportée à la terre, mais elle vient du ciel. À la croix, qui n'est pas un monument aux morts. Est-ce que vous avez pensé que la croix, ce n'est pas un monument aux morts ? Pas du tout. Mais c'est un monument qui a été érigé en l'honneur, tout simplement de la vie. Parce que la croix, ce n'est pas la mort, c'est la vie pour moi. Une vie nouvelle, par l'esprit, sans frontières, sans barrières. Là où aucun péché, aucun préjugé, aucun jugement, ni crainte nous arrête dans notre liberté de servir, de prier, d'adorer. Or, nous dit Paul, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que là est la liberté, là où tu es. Pas quelque chose de terne, de figé, de glacé, de froid, de morbide, mais quelque chose de vivant. Une dernière recommandation, je l'ai cité tout à l'heure, je le cite à nouveau. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes sortis d'une religion. Le Seigneur nous a pris, nous a extirpés, il nous a saisis, comme Paul le dit. Christ m'a saisi. Eh bien, ce n'est pas pour retourner dans un carcan de toutes sortes de choses que les hommes ont fabriquées. C'est pour vivre pleinement notre communion avec le Seigneur. C'est-à-dire, enserré dans toutes sortes de limitations étroites et contraignantes, des traditions, des raisonnements, des habitudes humaines. Et vous savez que l'habitude, c'est comme dans un champ, c'est un sillon que l'on trace. Et il est tracé, c'est un creux, il y a des mottes de chaque côté. Mais au bout d'un certain temps, eh bien, on se fait ensevelir, parce qu'avec les pluies, les intempéries, le sillon, il va s'aplanir, il va s'éroder. Et vous, vous êtes en dessous. Alors attention, il faut sortir du sillon. Il faut être au-dessus, naturellement. Invoque-moi, je termine sur cette dernière pensée. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Ce qui nous fait dire, par rapport, et en conclusion, il y a deux choses chez l'homme, il y a les lèvres et le cœur. C'est ce que Jésus nous dit, il m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Les lèvres qui cacheraient une religiosité de façade et un cœur aigri et en révolte, ce n'est qu'une fausse adoration, une fausse dévotion et une fausse consécration. Les lèvres qui dissiperaient une confession de foi qui consiste qu'en une liste de règles de tradition, c'est une foi morte et une foi stérile, inféconde. Alors Dieu attend simplement l'élan spontané qui engage le cœur entièrement, où il nous est dit ceci, « Si le Fils vous affranchit, si l'Esprit du Fils, je l'ajoute, c'est une paraphrase, si l'Esprit de Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et Dieu peut nous dire en retour, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Eh bien, que le Seigneur nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce. On va bénir le Seigneur, on va le remercier. Et je vais demander à Paul, si tu veux bien simplement prier, simplement une prière de ton cœur, pour ce message que nous avons entendu et qu'il nous fasse du bien et que nous allions de l'avant. Nous sommes appelés à la liberté et à la vie, mes frères et sœurs.
Merci Pierre pour ce message que tu nous as fait. Merci de nous aider, Seigneur.